Les fantômes ne sont pas les seuls êtres surnaturels à peupler le cinéma. Il y a toute une variété impressionnante de créatures qui pullulent dans les longs métrages. Communément appelés monstres, ils permettent à des cinéastes d'expérimenter beaucoup de choses dans leurs films. Et c'est pour cela que j'ai voulu leur consacrer une chronique. Donc bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral et aujourd'hui on va voir les monstres au cinéma. Alors on commence comme d'habitude avec un peu d'histoire. Vous vous en doutez bien, le cinéma de monstres n'est pas une chose récente. La toute première mise en scène du créature fantastique dans les salles obscures était la créature de Frankenstein en 1910, donc qui est adaptée du roman de Mary Shelley. Et le genre a surtout été popularisé par les célèbres Universal Monsters dans les années 20-30, donc les Universal Monsters, c'est un ensemble de films d'horreur et de science-fiction qui sont tous produits par le studio Universal. On y retrouvait des figures comme la momie, Dracula, le loup-garou, la créature du lac noir, l'homme invisible. Et bien sûr, la plus célèbre adaptation de l'histoire de Frankenstein avec la créature interprétée par Boris Karloff, vous savez, celle avec la créature avec des clous dans le cou, bah, ça vient de là.
Ouais, le Frankenstein qu'on imagine.
Le Frankenstein de base. Le plus connu en tout cas, c'est lui interprété par Boris Karloff. Et le cinéma, surtout le cinéma d'horreur, est truffé de créatures en tout genre. Et durant ma veille de recherche pour cette chronique, j'ai décidé de prendre 4 films qui sont suffisamment caractéristiques des films de monstres et des films d'horreur. The Thing de John Carpenter, Cloverfield de Matt Reeves, Ça d'Andrés Muschietti, donc le remake, pas le téléfilm, et Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Commençons donc par le premier, puisque nous sommes des gens civilisés. Donc, avec Les Parasites et la Paranoïa, avec le film donc de The Thing de John Carpenter.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps as-tu resté seul avec lui?
Je crois que Blair ne tourne plus rond.
Vous allez lui laisser le commandement sans savoir s'il n'est pas une de ces choses?
Je ne sais pas à qui me fier.
The Thing, sorti en 1982, réalisé par John Carpenter, raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques qui découvre une créature gelée. Ramené à la vie, le monstre prend l'apparence de toute forme organique qu'il trouve et décime un à un les membres de l'expédition. Le fait que le parasite prenne l'apparence de n'importe quelle forme de vie augmente la paranoïa de chaque personne. Cette paranoïa, on peut la retrouver dans de nombreux films, par exemple dans un film de 67, L'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel, qui est excellent, dans laquelle les extraterrestres remplacent peu à peu les humains par des copies conformes mais sans âme. Le concept de parasite dans le cinéma est intimement lié à celle de la paranoïa, car lorsque les protagonistes du film savent qu'une créature étrangère rôde et que cette créature peut prendre n'importe quelle forme ou bien investir n'importe quel corps, ils se mettent à se méfier de tout et de rien. Et cette paranoïa, elle se répercute ensuite sur le spectateur qui, à son tour, doute des personnages que le scénario lui a introduits au début du film, certes personnages qu'on a pu apprécier au début. On retrouve la même sensation de doute que lorsqu'apparaît l'idée d'un traître dans un petit groupe. Cette notion de doute et de paranoïa ambiante est d'autant plus importante dans un endroit clos où les personnages ne peuvent pas s'enfuir à cause d'un événement extérieur, par exemple une tempête de neige dans The Thing. C'est un procédé assez classique d'histoire policière, surtout celle se déroulant dans un groupe réduit. Par exemple, le chef-d'œuvre de littérature d'Agatha Christie, Les 10 petits soldats, où ils étaient 10, je ne sais plus comment il était renommé, mais j'espère que c'est le premier parce que c'est plus logique, ça colle avec l'histoire, qui parle d'un groupe de 10 personnes assassinées l'une après l'autre. Bref, le parasite d'un film d'horreur, ou de tout autre film, est une allégorie fantastique du tueur en série. C'est vrai, remplacer la créature par un Michael Myers ou un Jason Voorhees avec son masque de hockey qui est infiltré au milieu d'un groupe dont les membres disparaissent un par un, et vous avez The Thing de John Carpenter. Bon, évidemment, le problème des parasites, c'est que ça ne se voit pas. Les films qui utilisent ce procédé se basent davantage sur la paranoïa, la peur des autres et le rejet. Les monstres sont donc au second plan, et moi j'aime bien quand il y a des monstres parce que je trouve ça joli. Contrairement donc à la deuxième partie, où les monstres sont bien plus que visibles, étant donné qu'ils sont énormes.
Thank you.
La plus grande représentation connue de monstre géant et qui a le droit à le plus de films, 36 au total avec celui qui sort cette année, est bien évidemment Godzilla, dont vous venez d'entendre le cri à la fin de l'extrait que je viens de passer. Godzilla est ce qu'on appelle un kaiju, un monstre issu de la culture japonaise. Ce mot est très souvent utilisé pour désigner des créatures étranges et titanesques. Godzilla est souvent vu comme une force de la nature, une créature si dantesque qu'elle ne peut être détruite sauf par quelque chose d'aussi grand. Il lui arrive de se battre contre d'autres kaiju afin de défendre son territoire qui est la planète Terre, sans forcément de se préoccuper de ce qu'il se passe à côté. Alors je vous l'accorde, les films avec de gros monstres sont plus de l'ordre du film catastrophe. Après tout, l'exemple dont je vais vous parler est de type film catastrophe, mais il va surtout me permettre d'avoir une passerelle dans le monde de l'horreur. Cloverfield, sorti en 2008 et réalisé par Matt Reeves, le même Matt Reeves à qui on doit deux volets des films récents de la planète des singes, raconte l'histoire d'un monstre qui ravage New York et dans laquelle un groupe d'amis tente de survivre. Et ce qui est intéressant dans ce film est déjà que le monstre n'est jamais montré à l'écran. C'est un peu hypocrite, je sais, puisque tout à l'heure j'ai dit que j'aimais bien quand les monstres étaient vus. Mais là c'est intéressant parce qu'il n'est que suggéré par l'immense destruction qu'il produit. Et ensuite, le film est un found footage. Qu'est-ce qu'un found footage ? C'est un film dans lequel la caméra fait partie de la diégèse. Qu'est-ce que la diégèse ? C'est ce qu'on voit dans le film. Dans la très grande majorité des films, la caméra ne fait pas partie de la diégèse. Les acteurs sont filmés avec, mais elle ne fait pas partie intégrante du récit. Dans le found footage, la caméra est forcément à l'intérieur de l'histoire, soit tenue par un personnage, soit en tant que caméra de surveillance ou toute autre idée impliquant la présence d'une caméra dans l'histoire. Le found footage implique donc que tout ce qui est montré à l'écran est filmé par quelque chose ou quelqu'un. Trois des grands exemples de l'horreur, donc on y revient, sont Paranormal Activity, The Blair Witch Project et REC. Paranormal Activity, sorti en 2007 et réalisé par Oren Peli, raconte l'histoire d'un couple hanté par quelque chose de mystérieux et sévissant la nuit. Donc les protagonistes vont choisir d'investir dans une caméra, filmant ce qu'il se passe la nuit. D'ailleurs, l'accroche du film était « Qui c'est qui se passe quand on dort ?» The Blair Witch Project, sorti en 1999 et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, relate la disparition mystérieuse de trois jeunes cinéastes dans la forêt de Black Hill au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Le film est donc composé du reportage des trois personnages dont la cassette a été retrouvée après leur disparition. D'ailleurs, found footage veut littéralement dire « métrage trouvé ». Quant à REC, de Paco Plaza et Juame Balaguerro, est sorti en 2008, nous raconte la vie d'Andrela, ou Angela, je sais pas, c'est espagnol, donc j'imagine que c'est Andrela, journaliste pour une télévision locale qui, accompagnée de son caméraman, relate le quotidien de ceux qui travaillent la nuit. Jusqu'au jour où une urgence dans une caserne de pompiers va bouleverser son quotidien. Vous imaginez bien que l'urgence, c'est en rapport avec l'horreur. On a donc ici trois films d'horreur fonctionnant tous avec le principe du found footage. L'avantage de cette technique est qu'elle coûte relativement peu cher à produire. Il faut juste une caméra un peu naze et quelques acteurs. Pour les effets spéciaux, pas besoin, puisque les personnages préfèrent se filmer à réagir plutôt que de nous montrer ce qu'il se passe réellement. L'inconvénient est que ça coûte relativement peu cher à produire, et donc n'importe qui y va de son found footage sans subtilité, avec juste une caméra un peu naze et quelques acteurs, sans effets spéciaux, car les personnages préfèrent se filmer à réagir plutôt que de nous montrer ce qui se passe réellement. Cette parenthèse du found footage étant terminée, reprenons notre inventaire des monstres au cinéma. Puisqu'après les gros monstres aliens, il y a aussi les petits monstres aliens, agissant comme des chasseurs, comme dans ça, ou Alien.
Tu m'as l'air sympathique, je suis sûr que tu as plein d'amis.
J'en ai trois, mais mon meilleur ami, c'est mon frère.
Et où est-il ?
Il est malade, il reste au lit.
Je sais comment lui remonter le moral, je vais lui offrir un ballon. Tu veux un ballon aussi, Georgie ?
Mes parents m'ont dit de jamais accepter de cadeau d'un inconnu.
Oh, moi, je m'appelle Gripsou, le clown danse. Gripsou ? Ouais, je vous présente Georgie. Georgie ? Voici Gripsou le clown. Voilà, maintenant on se connaît, n'est-ce pas ?
Ça, réalisé par Andrés Muschietti et sorti en 2017, et adapté du livre de Stephen King du même nom, le film et le livre relatent l'histoire de sept enfants ayant du mal à s'intégrer et étant rejetés par tout le monde. Ensemble, ils vont former le club des ratés. Ils ont également pour point commun d'avoir été confrontés à une créature polymorphe qu'ils appellent ça, et qui s'appelle Gripsou, donc le clown dansant. Une bestiole qui se tapit dans les égouts de la ville et qui, tous les 27 ans, sort pour se nourrir d'enfants après les avoir confrontés à leur pire peur. Vous connaissez sûrement cette histoire puisqu'elle a fait naître une peur bleue des clowns chez toute une génération, surtout à cause du téléfilm de 90. Quant à Alien, le 8e passager, réalisé par Ridley Scott et datant de 79, nous compte l'histoire de l'équipage du Nostromo, un vaisseau spatial, qui fait face à un mystérieux passager clandestin extraterrestre et meurtrier. Dans les deux films, la créature est d'origine alien, d'où l'intérêt de les mettre ensemble. Et dans les deux films, on a cette thématique de chasse et de monstres tapis dans l'obscurité. Mais le plus intéressant dans les deux longs métrages est le travail du réalisateur, qui cherche à nous mettre mal à l'aise bien plus que de nous faire peur. Dans ça, Muccietti utilise la créature de façon intelligente. À chacun de ces meurtres, on a toute une séquence de montée dramatique dont on connaît déjà l'issue, l'enfant va se faire bouffer. Mais là où il pourrait rendre ça rapide, le monstre joue avec sa victime. Il discute, il prend son temps. Si bien qu'on a le temps d'espérer que l'enfant se fasse secourir au dernier moment. La séquence est suffisamment longue pour que la mort soit surprenante et inattendue, suffisamment pour nous faire sursauter. Je vous avais parlé lors de ma chronique sur les fantômes que j'étais pas très fan des jumpscares, ce moment où quelque chose de très soudain arrive avec un effet sonore assourdissant, provoquant inévitablement le sursaut. Et bien pour ça, c'est différent. Le jumpscare arrive au terme d'une scène angoissante, c'est presque une délivrance. D'autant plus que ceux-ci, les jumpscares, ne sont pas utilisés à outrance et arrivent à nous scotcher véritablement au fauteuil. Pour Alien, c'est légèrement différent car la créature est un animal prédateur, dont le but est de décimer la moindre créature vivante qui se trouvera devant lui pour investir le vaisseau spatial. Le xénomorphe, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, est toujours dans l'ombre. On le voit jamais vraiment. Chaque membre de l'équipage qui disparaît un à un, on ne sait pas vraiment pourquoi ou comment il a disparu. On sait juste que c'est à cause de la créature, car il est là. Il n'a finalement même pas besoin d'être là, vraiment physiquement, puisque la simple pensée du fait qu'il se balade dans un coin du vaisseau est suffisante pour nous tenir en haleine durant tout le film. On a à nouveau un endroit clos et des personnages qui disparaissent l'une après l'autre, comme dans The Thing, mais ici, les membres de l'équipage n'ont aucune raison de douter des autres, puisque la créature est un être à part entière, sans capacité de métamorphose. Les deux monstres cités précédemment, donc Gripsou et l'alien, sont des chasseurs. Leur but n'est pas de tuer pour le plaisir, mais résulte d'un instinct primaire. Ça pour se nourrir, et le xénomorphe pour investir les lieux. Le plaisir, on le retrouve plutôt chez le réalisateur qui s'amuse à mettre en scène chaque présence de la créature, chaque meurtre de la créature, cherchant à surprendre sans cesse le spectateur. Et pour le dernier film de monstres dont je voulais vous parler, à savoir Le Labyrinthe de Pan, on s'y attaquera une prochaine fois. Car il s'agit d'un film fantastique, et le fantastique a besoin d'avoir sa propre plateforme, et j'ai vraiment besoin de développer, de parler de plusieurs choses en même temps, et on n'a malheureusement pas le temps.
La fausse annonce.
Désolé. C'est donc ici que s'achève cette chronique monstrueuse. Je vous conseille bien évidemment The Thing de John Carpenter, Cloverfield de Matt Reeves, les trois films Paranormal Activity, Blair Witch Project et Rec qui sont de très bons exemples de films found footage. D'ailleurs, si le sujet de found footage vous intéresse, je vous conseille l'excellent épisode de Chroma, disponible sur YouTube et sur Dailymotion, sur Paranormal Activity. Je vous conseille aussi évidemment Alien de Ridley Scott et ça d'Andrés Muccietti. Tout ce dont j'ai parlé sera évidemment listé dans le podcast de la chronique, pas de l'émission, sur Radio G à la rubrique Podcast Plus.
Guichet choral, donc.
Guichet choral. Sur ce, je vous laisse avec Addict, une chanson tirée de la géniale série d'animation Has Been Hotel, qui est disponible sur YouTube, racontant l'histoire d'un hôtel aux enfers, donc peuplé de monstres. C'est dans l'ambiance, c'est dans le thème. D'ici la prochaine fois, voyez des films, portez-vous bien. Salut!
Till death do us part, but we're already past that phase. This is a brand new start, and I think I deserve some praise for the way that I am. Despite having overdosed and ending up comatose, I don't give a damn. I've let my emotions go, fuck being a sober hoe. This is the mantra, this is my life. You're playing with now till the end of the night. Surrounded by fire, the passion ignites. A hit and then heaven and hell are out of the heart. I'm addicted to the madness. This
this hotel is my Atlantis. We're forever gonna have a fucking reason to sin. Let me leave my soul to burn and I'll be breathing it in. I'm addicted to the feeling, getting higher than the ceiling. And we're never gonna want this fucking feeling to end. Just concede and give in to your inner demons again. You fell deeper in this pit while death rains from above. So count your blessings, cause this is it. You're not letting it go. So what if I misbehave? It's what everybody craves. You already know. So come if you're feeling brave and fancy yourself a mate. You want it, I got it. See what you like. We could have it all by the end of the night. Your money and power, my sinful delight. A hint of the heaven and hell at our level high. I'm addicted to the madness. This hotel is my Atlantis. We're forever gonna have a fucking reason to sin. Let me leave. I'm addicted to the feeling, getting higher than the ceiling.